Michael Vinas, le concert vient de se finir avec l'Appassionata. Je suis toujours étonné du final de cette Appassionata, la folie, le lâcher prise qu'elle demande.
Oui, c'est une œuvre étrange parce que c'est une œuvre qui a une progression qui n'est pas une progression telle qu'elle est notée. Il semblerait par les indications de Beethoven au départ qui demande un allegro manon troppo sur quelque chose qui porte en lui-même une autre type de violence. Et cette violence soi-disant basée sur des structures de type refrain répétitif qui monte à l'angoisse, en réalité me semble avoir, c'est une expérience très caractéristique à mon avis d'un chef-d'œuvre qui a échappé à son auteur. Et par conséquent, une partie de ma vie a consisté à oser transgresser cet allegro manon troppo et de arriver à conduire vers ce côté très caractéristique qu'est l'extrême fin, la surrapidité et surtout quelque chose de caractéristique qu'on appelle la cellule de la Appassionata qui sont les notes répétées qui deviennent un trépignement. Et ce trépignement pianistiquement, eh bien, il faut le faire, déjà y arriver instrumentalement, mais il faut surtout oser le faire et oser aller, me semble-t-il, où là, il a voulu aller. Et il y a toujours, chez un compositeur, une relation entre, parfois contradictoire entre l'écriture, la notation et ce qu'il entend. Et c'est très caractéristique du final de la Appassionata. C'est une œuvre qui a traversé toute ma vie.
Comment vous laissez résonner le piano, le final d'un des mouvements? J'entendais la résonance et à quel point vous l'avez laissé s'éteindre jusqu'au bout?
Alors là, c'est une des caractéristiques de l'Appassionata, mais pas seulement. Alors, c'est très compliqué l'histoire de la composition de Beethoven parce que c'est à la fois un auteur du 18e et un auteur du 19e. Et bien sûr, en 18, il faut jamais oublier non seulement qu'il a écrit pour des pianofortés, ça jamais, encore que j'ai vu des pianofortés de l'époque de Beethoven dans lesquels il y a les prémonitions de ce qui peut intéresser aujourd'hui un compositeur dans le domaine du piano ou du son tout simplement. J'en vous en dirai quelques mots tout à l'heure. Mais évidemment, il y a quelque chose de très très particulier dans le Beethoven 19e-iste, hein, c'est qu'il a imaginé, il a conçu la question de l'extinction du son. Vous vous rendez compte? C'est quelque chose que le piano est un instrument, pas le sien, c'est formidable. Je ramène pas Beethoven simplement à un homme qui annonce quelque chose. Ça, je déteste cette approche du 20e-iste de Beethoven, mais je ne la conteste pas. Elle fait partie de ses dimensions. C'est un homme de la recherche, mais il entend dans le piano, même celui qu'il n'a pas, il entend dans le piano la question de l'enveloppe du son et de l'extinction de la résonance, mais il en fait un concept formel et un concept acoustique. Et évidemment, la fin du premier mouvement de la Appassionata est une écriture de l'extinction du son du piano d'un accord.
Je pensais au début de Opus 14, le numéro 2, la densité harmonique. D'emblée, on entend chez Beethoven, par rapport aux autres compositeurs de son temps, une idée de densité harmonique. Même dans le moment très calme, on sent que chaque fois, il y a cette densité harmonique qui est présente, qui change peut-être la donne de l'écoute.
Je le ressens comme... Je ne me contente pas, vraiment je le dis parce que dans cette intégrale là que je fais actuellement au Bernardin, qui d'une certaine manière bouleverse un peu même tout ce que j'ai pu faire dans l'enseignement, par exemple au conservatoire, en une classe d'analyse sur l'écriture beethovenienne, et en plus je le vois de plus en plus comme une sorte de IRM, c'est-à-dire que chaque note, je connais la raison, je ne prétends pas, mais disons que je crois m'imaginer en tout cas connaître la raison de chaque note de l'écriture. Savoir pourquoi c'est dans un registre, pourquoi c'est dans un autre. Mais c'est une très grande douleur qu'il y a dans cette écriture, parce qu'il y a une exigence, comme vous dites, du timbre chez un compositeur dont les réflexes d'écriture sont des réflexes baroques. Et cette situation-là, c'est-à-dire, c'est pas du tout... C'est trop simple de dire que Beethoven est un révolutionnaire. Bien sûr, il était sûrement acquis aux idées révolutionnaires, républicaines et émancipatrices. Mais disons qu'en tant que musicien, c'est un homme qui vit un déchirement énorme que je traverse en travaillant sa musique actuellement. Un déchirement énorme avec je peux vous dire une chose, une horlogerie phénoménale de détails polyphoniques et de emplacement des hauteurs par rapport à la relation entre l'harmonie et la polyphonie et la variation, c'est une mine, c'est-à-dire c'est écrasant de puissance, mais aussi de souffrance, pas au niveau je dirais, de la souffrance romantique que des biographies de Beethoven, mais à l'intérieur même de cette écriture. C'est pour l'interprète qui en est conscient, qui probablement est compositeur, enfin, par conséquent, bien entendu, c'est ce que c'est le système tonal, c'est ce que c'est les fonctions, c'est ce que c'est la résonance, c'est ce qu'est le 18e, joué sur piano forte, a écrit pour piano forte, a joué pour piano moderne, c'est la relation entre l'orchestre et le piano, et l'orchestre, pas n'importe quel orchestre, l'orchestre tonal, celui qui a été fondé à partir du 18e siècle, eh bien, c'est vertigineux. Et c'est ce qui est extraordinaire, et ce qui est extraordinaire comme expérience dans la rencontre vraiment avec tout le corpus, c'est son inachèvement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'œuvre achevée. Elles sont toujours traversées de carences, d'inaccomplissements et de compromis. Et c'est continuel dans l'écriture avec un auteur avec lequel on a une proximité fusionnelle et analytique en même temps et interprétative.
En même temps, dans la dimension de Beethoven, ça va nous ramener au Petit Prince, je vois toujours le dialogue. Le dialogue qui est présent dans le piano de Beethoven, on sent que dans son travail thématique, à un moment donné, j'entendais dans la pour le plus 54, cette notion de dialogue entre les partenaires de jeu, les thèmes.
Le système tonal, d'ailleurs, permet d'exprimer des structures de syntaxe. Alors après, vous avez alors, cette manière, d'ailleurs, de travailler sur les registres et sur les questions-réponses, d'ailleurs, aussi, parce qu'on va simplifier la question sans arriver jusqu'à expliquer la fonction cadentielle en musique. Et la question de la clairière modulante qui fait que, évidemment, avec le système du langage et ses hiérarchies et ses dérives et ses échappées et ses conclusions, il y a là, je dirais, une capacité de structurer à la fois la forme et de lui donner une relation assez complexe que peut avoir la musique en général avec le sens. Et derrière, il y a aussi, bien sûr, la tradition haydnienne, c'est-à-dire tout le dialogue qu'il y a entre le baroque, la polyphonie, les autres transversalités, notamment l'opéra. Et dans cet énorme génome que tout ça représente, enfin on va pas pouvoir le découper aujourd'hui. Une vie n'y suffit pas d'ailleurs. Évidemment, l'orchestre tel qu'il est né de cette configuration complexe européenne.
Alors pour revenir au Petit Prince, le Petit Prince fonctionne sur un dialogue. Mais la première chose qui va venir, comment vous est venu le Petit Prince?
Le Petit Prince m'est venu par des circonstances, je dirais, le hasard, c'est-à-dire que j'ai rencontré le directeur de l'opéra de Lausanne. Après, c'est toujours pareil, il y a des contingences et il y a des faits. Les opéras se veulent, à mon avis, à juste titre, vouloir s'ouvrir vers ce qu'on appelle le jeune public. Et je pense que là-dedans, il y a de bonnes intentions qui peuvent d'ailleurs pas mal rencontrait l'évolution même de la question de la création de l'opéra. C'est-à-dire que qui dit jeune public, en tout cas, brise les réflexes sociologiques, notamment de la musique contemporaine en général, mais la musique contemporaine en France, qui consiste évidemment à la réserver à un public qui ne peut venir entendre une œuvre qu'avec un certain nombre de sous-entendus et de complicité esthétique, et de certitude historique et de subvention. Par conséquent, une œuvre lyrique, elle est généralement, pour un directeur d'opéra français, je dirais, une obligation institutionnelle du cahier de charge, terme redoutable et en même temps magnifique. Et par conséquent, on commande un opéra à un compositeur. On sait très bien que c'est l'obligation de l'année, que ça ne pourra pas tenir la salle davantage que deux ou trois fois, et que, ma foi, on aura fait son devoir, et qu'ensuite on va démonter les décors, et on amplifie quelque chose d'ailleurs qui ne se limite pas à l'opéra, mais qui se limite à la notion de l'œuvre telle qu'au fond elle a pu exister bien antérieurement à l'époque où on a sacralisé la notion de l'œuvre et de l'auteur. C'est qu'en fin de compte, le compositeur ou le créateur est au service de la société, et ma foi, ne fait pas œuvre, mais crée de l'événementiel. Et donc, s'adresser au jeune public, c'était déjà casser le système. Dans ce sens-là, j'ai reçu la proposition du directeur de Lausanne comme une proposition intéressante, dans la mesure où il m'a proposé quelque chose qui, j'aime pas ce terme, mais j'utilise, externaliser même la notion de commande d'opéra et la question de texte. C'est-à-dire, aucun compositeur dit de musique contemporaine, institutionnelle, vivant dans les travées des pouvoirs plus ou moins vieillissants, n'aurait pris Saint-Exupéry, les choix commencent à partir de 1950-1960. Et alors, la proposition, effectivement, était une proposition pour le jeune public, mais en même temps me proposant un texte qui, en réalité, est un texte beaucoup plus compliqué. Alors, évidemment, on va élargir, c'est encore une formule, je dirais, tout pour tout public, mais pour tout public, c'est très important parce que, en fait, compte, Le Petit Prince est un texte qui porte en lui des thématiques extrêmement tragiques d'ailleurs, ou mystiques, et écrites dans un des moments de la plus grande désespérance du XXe siècle, et tout cela par la voix d'un enfant. Et d'autre part, et c'est là d'ailleurs qu'il faut bien lever un malentendu, c'est que la force du Petit Prince, ce n'est pas simplement qu'il s'adresse aux enfants. La force du Petit Prince, il est que c'est à la fois, c'est un texte qui brusquement fait appel à des éléments, à des dimensions, je dirais, qui ne sont pas obligatoirement des dimensions qu'on trouve dans la notion même de musique contemporaine, mais qu'on peut retrouver au XVIIIe siècle, la question de la grâce, le charme de la danse, les comptines, la mélodie, quelque chose de mozartien. Donc là, il y a un bouleversement déjà dans la demande esthétique qui était très importante pour moi après la métamorphose, surtout après avoir eu l'impression que cette métamorphose ne s'était pas trouvée dans la catégorie où elle devait être. C'était pas un opéra de musique contemporaine. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il va être repris cette année. Mais par contre, le texte de Saint-Exupéry est l'héritier des grands textes de comptines et de poésie qui s'adressent aussi aux enfants. Je pense à La Fontaine, je pense à Perrault, je pense à Andersen, je pense à Colette. Évidemment, L'Enfant et les Sortilèges n'est pas loin. Et cette grâce infinie, évidemment, fait que le livre porte en lui-même des éléments tragiques, je dirais, dans un habillage éditorial qui est celui d'un livre pour enfants. C'est la question même du principe de l'édition et des dessins, c'est-à-dire des dessins qui se veulent avoir le graphisme de la grâce enfantine, de la même manière que des phrases mozartiennes font semblant d'avoir une sorte de stylisation de la grâce enfantine, ont complètement, évidemment, bouleversé le travail musical chez moi, et c'était nécessaire, et surtout m'ont ouvert la voie à un projet artistique qui m'émancipait totalement d'un certain nombre de réflexes conditionnés de la musique contemporaine. Je ne pense pas les avoir eus, mais je pense que cela m'a permis aussi de composer d'une manière assez spécifique, dont on pourra dire quelques mots, du coup d'avoir une exigence d'évidence esthétique, de transparence du texte, de respect de ce qui est dans la mémoire collective universelle, c'est-à-dire une expérience unique, pouvoir écrire un opéra où la salle connaît par cœur, parfois mieux que les acteurs, le texte qui va être chanté. Donc, c'est jeune public dans ce sens-là, mais en même temps, la question, l'enjeu musical est pour moi la libération et le retour peut-être à ce que je suis vraiment, était une rencontre importante. Et dans ce cas-là, cette demande circonstancielle, Vigier, peux-tu faire un texte pour les enfants? Oui. Que me proposes-tu? Je réponds Peter Pan. Il me répond non, Le Petit Prince. Et effectivement, à partir de là, ça a été vraiment une expérience bouleversante.